À ces mots, tout satisfait. Voilà, dis-je, Eutydème et Dionysodore, un modèle d'exhortation à la vertu, tel que je le désire à peu près, mais grossier peut-être, pénible et diffus. Que l'un de vous deux nous le reproduise avec art. Si vous ne voulez pas prendre la peine, au moins, suppléez à ce qui manque à mon discours en faveur de ce jeune garçon, et dites-lui s'il faut qu'il apprenne toutes les sciences, ou si une seule peut le rendre homme de bien et heureux, et quelle est cette science? Car, comme je vous l'ai déjà dit, nous souhaitons tous ardemment que ce jeune homme devienne un bon jour bon et sage. Après avoir parlé de la sorte, Criton, j'écoutais avec recueillement pour entendre de quelle manière ils entameraient la conversation et comment ils s'y prendraient pour exciter Clinias à l'étude de la vertu et de la sagesse. Dionysodore, le plus âgé des deux, prit le premier la parole. Nous jetâmes tous les yeux sur lui comme pour entendre à l'instant un discours merveilleux. En quoi nous ne fûmes pas trompés. Car il est vrai, Criton, qu'il nous dit des choses admirables, qui méritent d'être entendues de toi, tant elles étaient capables d'exciter à la vertu. Dis-moi, Socrate, et vous tous qui désirez, dites-vous que ce jeune homme soit vertueux. N'est-ce qu'un jeu de votre part, ou le souhaitez-vous tout de bon et sérieusement? Il me vint alors dans l'esprit que ces étrangers pourraient bien avoir cru, quand nous les avions priés d'entretenir Clinias, que nous avions plaisanté, et que pour cela ils n'avaient fait aussi que badiner. Je me hâtai donc de répondre qu'assurément, c'était tout de bon. « Prends garde, Socrate, reprit Dionysodore, que tu ne nies bientôt ce que tu affirmes présentement. Je sais bien ce que je dis, répondis-je, et je suis sûr que je ne le ferai pas. Que dites-vous donc? Vous souhaitez qu'il devienne sage? Cela même. Et maintenant, Clinias est-il sage ou ne l'est-il pas? Il dit qu'il ne l'est pas encore, car c'est un garçon sans vanité. Vous voulez donc, reprit-il, qu'il soit sage et non pas ignorant? Oui. Vous voulez donc qu'il devienne ce qu'il n'est pas et qu'il ne soit pas ce qu'il est. À ces mots, j'étais déjà tout embarrassé. Dionysodore, profitant de mon trouble, reprit aussitôt. Puisque vous voulez que Clinias ne soit plus ce qu'il est, vous voudriez qu'il ne fût pas vivant. Vraiment, voilà de beaux amis et amants qui souhaitent avant tout la mort de celui qui leur est cher. Là-dessus, Ctésippe s'enflamma de colère à cause de ses amours et dit : Étranger de Thurium, s'il n'était pas trop bas poli, je te dirais : retombe sur la tête le mensonge que tu fais sciemment en supposant de moi et des autres. Ce qu'on ne peut pas même dire sans crime que je souhaite la mort de Clinias. Ctésippe, lui dit Eutydème, crois-tu qu'il soit possible de mentir? Oui, par Jupiter, répondit-il, à moins que je ne sois fou. Mais celui qui ment, dit-il la chose dont il est question, ou ne la dit-il pas? Il l'a dit. S'il l'a dit, il ne dit rien d'autre chose que ce qu'il dit. Il le faut bien. Ce qu'il dit, n'est-ce pas une certaine chose? Qui en doute? Celui qui l'a dit, dit une chose qui est. Oui? Mais celui qui dit ce qui est, dit la vérité. Donc, si Dionysodore a dit ce qui est, il a parlé vrai et ne vous a point menti. Oui, Eutydème, répondit Ctésippe, mais qui dit cela ne dit pas ce qui est. Alors, Eutydème, les choses qui ne sont point, n'est-ce pas? D'accord. Les choses qui ne sont point ne sont nullement, nullement. Mais se peut-il qu'un homme agisse vis-à-vis ce qui n'est pas et qu'il fasse ce qui n'est en aucune manière? Il ne me paraît pas, répondit Ctésippe. Mais parler devant le peuple, n'est-ce pas agir? Oui, certes. Si c'est agir, c'est faire. Oui. Parler, c'est donc agir, c'est donc faire. Il en convainc. Personne ne dit donc ce qui n'est pas, qu'alors il en ferait quelque chose et tu viens de m'avouer qu'il est impossible de faire ce qui n'est pas. Ainsi, de ton propre aveu, personne ne peut mentir. Et si Dionysodore a parlé, il a dit les choses vraies et qui sont effectivement. « Par Jupiter, Eutydème, répondit Ctésippe, Dionysodore a dit peut-être ce qui est, mais ne l'a pas dit comme il est. »« Que dis-tu, Ctésippe ? » repartit Dionysodore. « Y a-t-il des gens qui disent les choses comme elles sont ?»« Il y en a, répondit Ctésippe, et ce sont les gens de bien, les hommes véridiques. »« Mais, reprit Dionysodore, le bien n'est-il pas bien et le mal n'est-il pas mal ?» Il la voit. « Et tu soutiens que les hommes honnêtes disent les choses comme elles sont. »« Je le prétends. » Les honnêtes gens disent donc mal le mal puisqu'ils disent les choses comme elles sont. Par Jupiter, oui, reprit Ctésippe, et surtout ils parlent mal des malhonnêtes gens. C'est pourquoi, crois-moi, prends garde que tu ne sois de ce nombre, de peur qu'ils ne disent du mal de toi. Car sache-le bien, les bons parlent mal des méchants. Et les grands hommes en parlent-ils grandement? Interrompit Eutydème, et les brusques brusquement? Oui, reprit Ctésippe, et des ridicules ridiculement. Ils disent que leurs discours sont ridicules. « Oh oh !» repartit Dionysodore. « Tu dis des injures, Ctésippe, tu dis des injures. »« Non, par Jupiter. Dionysodore, je t'estime trop, Mais je t'avertis en ami, et je tâche de te persuader de ne jamais me dire en face, et si rudement, que je souhaite la mort des personnes qui me sont très chères. Comme je vis qu'il s'échauffait trop, je me mis à plaisanter Ctesip et lui dis « Il me semble, Ctesip, que nous devons accepter de ces étrangers ce qu'ils nous disent, et ne pas disputer avec eux sur des mots, pourvu qu'ils veuillent nous faire part de leur science. Car s'ils savent refondre les hommes, d'un méchant et d'un ignorant, faire un homme de bien et un sage, n'importe qu'ils aient eux-mêmes découvert ou qu'ils aient appris d'un autre cette espèce de destruction merveilleuse par laquelle ils font périr le méchant et mettent à sa place un homme de bien. S'ils savent cela, et il n'y a point à en douter, puisqu'ils annonçaient tout à l'heure qu'ils ont depuis peu trouvé l'art de changer les méchants en gens de bien. Accordons-leur ce qu'ils demandent. Qu'ils tuent ce jeune homme, pourvu qu'ils en fassent un homme de bien, et qu'ils nous tuent nous-mêmes à ce prix. Si vous avez peur, vous autres jeunes gens, qu'ils fassent expérience sur moi comme sur un carien. Je suis vieux, je courrais volontiers ce danger. Et me voilà prêt à m'abandonner à notre Dionysodore comme à une autre mêlée de Colchos. Qu'il me tue s'il le veut, qu'il me fasse bouillir et tout ce qui lui plaira, pourvu qu'il me rende vertueux. Alors, Ctesip, je suis prêt aussi, Socrate, à m'abandonner à ces étrangers. Et s'il leur plaît, qu'ils m'écorchent même plus qu'ils ne le font à présent, à condition qu'ils tirent de ma peau, non pas une autre, comme de la peau de Marsyas, mais la vertu. Dionysodore s'imagine que je suis en colère contre lui, point du tout. Je ne fais que repousser ce qu'il m'attribue à tort dans ses discours. Il ne faut pas appeler injure, Dionysodore, ce qui n'est que contradiction. Injurier est tout autre chose. Là-dessus, Dionysodore prit la parole et dit « Tu parles, Ctesip, comme si c'était quelque chose que contredire. »« Assurément oui, répondit-il. Mais toi, Dionysodore, est-ce que tu ne le crois pas ? Tu ne me prouveras jamais que tu aies entendu deux hommes se contredire l'un l'autre. Soit, mais voyons si Ctesip ne te le prouvera pas aujourd'hui en contredisant Dionysodore. T'engages-tu à me rendre raison de cette prétention en me répondant ? Assurément. Ne peut-on pas parler de toutes choses ? Oui. Comme elles sont ou comme elles ne sont pas ? Comme elles sont. Car s'il t'en souvient, Ctesip, nous avons prouvé tout à l'heure que personne ne dit ce qui n'est pas. On n'a pas encore entendu dire un rien. Eh bien, reprit Ctesip, nous contredisons-nous moins pour cela, toi et moi ? Nous contredirions-nous si nous savions tous deux et ce qu'il faut dire d'une chose ? Ou plutôt, ne dirions-nous pas alors tous deux la même chose ? Ctesip l'avoua. Mais nous contredisons-nous quand ni l'un ni l'autre nous ne disons point la chose comme elle est ? Ou n'est-il pas plus vrai qu'alors ni l'un ni l'autre ne parle de la chose ? Ctesip l'avoua encore. Mais quand je dis ce qu'une chose est et que tu dis une autre chose, nous contredisons-nous alors ? Ou plutôt, ne parle-je pas, moi, de cette chose, tandis que toi, tu n'en parles pas du tout ? Et comment celui qui ne parle pas d'une chose pourrait-il contredire celui qui en parle ? À cela, Ctesip resta muet. Pour moi, étonné de ce que j'entendais, « Comment dis-tu cela, Dionysodore ? » lui demandai-je. J'ai souvent entendu mettre en avant cette proposition, et je l'admire toujours. L'école de Protagoras, et même de plus anciens philosophes, s'en servaient ordinairement. Elle m'a toujours semblé merveilleuse, et tout détruire et se détruire elle-même. J'espère que tu m'en apprendras mieux qu'un autre la vraie raison. On ne peut pas dire des choses fausses. C'est là le sens de la proposition, n'est-ce pas ? Il faut nécessairement que celui qui parle dise la vérité, ou qu'il ne dise rien du tout. Dionysodore l'avoua. Veut-on dire par là qu'il est impossible de dire des choses fausses, et qu'il est seulement possible d'en penser ? Non, pas même d'en penser, me dit-il. Il n'y a donc point d'opinion fausse ? « Non, répondit-il. C'est-à-dire qu'il n'y a point d'ignorance ni d'ignorant. Car si on pouvait se tromper, ce serait ignorance. »« Assurément, dit-il. Mais cela ne se peut. »« Non, certainement. Ne parles-tu de la sorte, Dionysodore, que pour parler et nous étonner ? Ou crois-tu en effet qu'il n'y ait point d'ignorant au monde ? » ?»« Mais c'est à toi de me prouver le contraire. Et cela se peut-il, selon ton opinion ? Et y a-t-il moyen de réfuter, si personne ne se trompe ?» Non, dit Euthydème, c'est impossible. Aussi ne t'ai-je pas demandé, reprit Dionysodore, de réfuter, car comment demander ce qui n'est pas ? Ô Euthydème, lui dis-je, je ne comprends pas encore à fond toutes ces belles choses, mais je commence cependant à voir jour un peu. Peut-être vais-je te faire une question assez niaise, mais pardonne-la-moi. S'il est impossible de se tromper, ou d'avoir une opinion fausse, ou d'être ignorant, il est aussi impossible de commettre une faute en agissant. Car alors, celui qui fait quelque chose ne peut se tromper dans ce qu'il fait. N'est-ce pas ainsi que vous l'entendez ? Tout à fait, dit-il. Voici maintenant cette question un peu niaise que je voulais faire. Si nous ne pouvons nous tromper ni dans nos actions, ni dans nos paroles, ni dans nos pensées, par Jupiter, alors qu'êtes-vous venu enseigner ici ? N'avez-vous pas annoncé tout à l'heure que vous sauriez enseigner la vertu mieux que personne à tous ceux qui voudraient l'apprendre ? Radotes-tu donc déjà, Socrate ? Reprit Dionysodore, pour venir répéter ici ce que nous avons dit plus haut. En vérité, il y a-t-il déjà un an que j'eusse avancé une chose, tu nous la répéterais encore. Mais pour ce que nous disons présentement, tu ne saurais qu'en faire. C'est qu'assurément, ce sont des choses très difficiles, lui répondis-je, puisqu'elles sont dites par d'habiles gens. Ce que tu viens de dire en dernier lieu n'est pas moins difficile, et on ne sait qu'en faire. Car quand tu me reproches, Dionysodore, que je ne saurais que faire de ce que tu dis, que prétends-tu ? N'est-ce pas que je ne peux le réfuter ? Réponds-moi. Les paroles que je ne savais que faire de tes arguments, veulent-elles dire autre chose ? C'est de ce que tu dis là qu'il est difficile de faire quelque chose. Réponds-moi, Socrate. Avant que tu aies répondu, Dionysodore ? Comment, tu ne veux pas répondre ? Le premier, cela est-il juste ? Lui dis-je. Très juste. Et par quelle raison ? Demandai-je. Évidemment, comme tu t'es donné à nous pour un homme merveilleux en l'art de parler, tu sais parfaitement aussi quand il faut répondre et quand il ne le faut pas. Ainsi, tu ne me réponds point parce que tu ne trouves pas à propos de répondre maintenant. C'est badiné, dit-il, non pas répondre. Fais que ce que je te dis, mon ami, et réponds, puisque tu conviens que je suis plus habile que toi. Il faut donc obéir, c'est une nécessité, à ce qu'il paraît. Tu es le maître. Interroge donc. Veux-tu dire que ce qui veut dire quelque chose est animé ? Ou bien crois-tu que les choses inanimées veulent dire quelque chose ? Celles-là seulement qui sont animées. Eh bien, connais-tu des paroles animées ? Par Jupiter, non. Pourquoi donc demandais-tu tout à l'heure ce que mes paroles voulaient dire ? Il n'y a pas d'autre raison, si ce n'est que je me suis trompé par ignorance. Peut-être aussi que je ne me suis pas trompé, et que j'ai eu raison d'attribuer de l'intelligence aux paroles. Que t'en semble ? Me suis-je trompé ou non ? Car si je ne me suis pas trompé, tu as beau être habile, tu ne saurais me réfuter ni que faire de mes paroles. Et si je me suis trompé, tu n'as pas non plus bien parlé, puisque tu as soutenu qu'il était impossible de se tromper. Et il n'y a pas un an que tu as dit cela. Mais il me semble, ô Dionysodore et Euthydème, que ce discours reste toujours au même point, et qu'aujourd'hui, comme autrefois, en détruisant tout, il se détruit lui-même. Votre art même, si admirable de subtilité, n'a pu trouver le moyen d'empêcher cela. Là-dessus, Ctésippe s'écria. Nos amis de Thurium, de Chios ou de quelque autre ville, il vous plaira, tout ce que vous dites est merveilleux, et il vous coûte peu de rêver éveillé. Craignant qu'il n'envoie aux injures, je tâchai d'apaiser Ctésippe et lui dis. Je te répète, Ctésippe, ce que j'ai dit à Clinias. Tu ne connais pas la merveilleuse science de ces étrangers. Ils n'ont pas voulu nous l'exposer sérieusement, mais imiter Protée, le sophiste égyptien, et nous tromper par des prestiges. Imitons donc de notre côté Ménélas, ne leur donnons point de relâche jusqu'à ce qu'ils nous aient montré le côté sérieux de leur science. Car je suis persuadé que nous aurons quelque chose d'admirable à voir quand une fois ils voudront agir sérieusement. Employons donc les prières, les conjurations et les invocations pour qu'ils se découvrent à nous, mais je veux encore auparavant leur expliquer de quelle manière je les supplie de se montrer à moi. Et pour cela, je reprendrai le discours où il a été interrompu et tâcherai d'en exposer le reste de mon mieux. Peut-être parviendrai-je à les toucher et que, par pitié des efforts que je fais pour arriver au sérieux, ils agiront enfin sérieusement eux-mêmes.